Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après notre série consacrée à l'étoffe et à l'industrie du textile, on vous propose comme chaque vendredi un zoom sur un grand sujet d'actualité éco. Aujourd'hui, la Macron économie est-elle en panne ? C'est le grand chantier économique du quinquennat. L'examen de la loi Pacte a démarré cette semaine à l'Assemblée. Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Tout un programme, un projet de près de 1000 pages, véritable catalogue de mesures en tout genre qui vise à relancer la croissance en berne et à simplifier la vie des entreprises. Après une année marquée par des mesures fiscales en faveur du capital et des plus aisés et une libéralisation du marché du travail dont beaucoup attendent toujours le volet censé protéger les salariés, que faut-il attendre de ce nouveau projet de loi ? Va-t-il véritablement transformer l'entreprise et peut-il relancer la croissance ? Un an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la politique économique du gouvernement tient-elle ses promesses ? Voilà les questions que l'on va poser avec Christian Saint-Étienne, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe et auteur de Macron, La valse folle de Jupiter, paru aux éditions de l'Archipel, et Romaric Godin, journaliste économique chez Mediapart. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, André Orléans nous parlera de la lettre à nos petits-enfants de John Maynard Keynes. Christian Saint-Étienne, Jean-Marc Daniel et Romaric Godin, bonjour.
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 Et merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors un premier mot d'abord sur les résultats économiques décevants de ces derniers mois. L'INSEE a confirmé la semaine dernière que la croissance du PIB n'atteindrait pas les 2% en 2018 comme ce qui était espéré. Et le chômage ne descend pas en dessous de la barre des 9%. Alors faut-il, oui ou non, incriminer la politique économique menée par Emmanuel Macron depuis maintenant un an et demi ? Qui porte la responsabilité ? Ces faibles résultats, Jean-Marc Daniel.
Écoutez, je pense qu'il y a une partie, effectivement, de la politique économique qu'on peut incriminer, notamment, non pas le matraquage, mais les hausses d'impôts un peu importantes qui ont été au tout début du mandat, aussi bien la CSG d'un côté que les hausses d'impôts indirectes, notamment sur l'essence. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions sur la capacité des hommes politiques à générer de la croissance. En fait, la croissance, c'est grosso modo trois blocs, une croissance tendancielle, une croissance de long terme, ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui est évaluée par les économistes aussi bien du FMI que de la Direction Générale du Trésor à 1,2-1,3%, sur laquelle donc veut agir la loi Pacte, le cycle économique. Et là, le cycle économique est en train de se retourner et donc effectivement d'éroder la croissance. La croissance se dérobe sous les pieds d'Emmanuel Macron et la politique qu'il a menée n'a pas forcément véritablement éviter cette érosion. Et puis, il y a les aspects qui sont les aspects un peu psychologiques. Alors là, ça donne lieu à des commentaires qui partent un peu dans tous les sens. On nous a expliqué que son retour, c'était la confiance absolue. Mais d'un autre côté, on nous a expliqué aussi qu'en faisant le prélèvement à la source, on allait casser l'enthousiasme consommateur. Donc là, c'est plus complexe à analyser. Pour résumer mon propos, je pense que il y a un effort à faire sur la croissance potentielle. Il est annoncé, il n'a pas forcément été véritablement fait. Et sur le cycle économique, il est dans une position défavorable. Alors que son prédécesseur, qui est en train de dire, écoutez, moi, quand je suis parti, il y avait de la croissance. En 2017, il y avait 2,1% de croissance. Son prédécesseur, qui avait théorisé ce retour de la croissance cyclique, effectivement, aurait pu bénéficier sur un plan politique du retour en question.
Pour vous, Romaric Godin, c'est le résultat de la tendance libérale du gouvernement actuel ?
Mais Jean-Marc Daniel a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire que tout le ralentissement de la croissance s'explique par la politique de ce gouvernement, d'une part, et des gouvernements en général par ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que ce coup d'arrêt, il est supérieur à ce qu'on observe en zone euro. Hein. En zone euro, on est passé de 0,7 à 0,4. En France, on est passé de 0,7 à 0,2. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé en France par rapport au reste de la zone euro. Et là-dessus, il y a une responsabilité du gouvernement, responsabilité qui a été assumée par le gouvernement à l'été dernier, qui a été de favoriser, de prioriser des mesures fiscales en faveur du capital et des flux et des revenus du capital plutôt que en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Ça a été évidemment la division de la baisse des cotisations salariales en deux, hein, au 1er janvier et au 1er octobre. Et évidemment, la hausse du 1er janvier, comme il y avait la hausse de la CSG qui était contemporaine, elle est passée quasiment inaperçue puisqu'il y a eu d'autres éléments, notamment la hausse des taxes sur l'essence, la hausse du prix du pétrole également, etc. Bon, bref. Mais ce choix-là, personne ne l'a imposé au gouvernement et je dirais, c'était même pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait promis une baisse des cotisations au 1er janvier. Il a fait un autre choix lors du PLF, du projet de loi de finances 2018. Et en fait, il le paye directement par cet affaiblissement de la croissance qui s'explique, on va peut-être y revenir aussi par des éléments de commerce extérieur et de compétitivité, mais aussi par cet affaiblissement de la consommation. Et la croissance française, elle est traditionnellement appuyée sur la consommation.
Christian Saint-Etienne, il y a une responsabilité du gouvernement dans le sens où effectivement la croissance est peut-être plus faible par rapport aux autres pays européens.
Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes camarades. Je mettrai le doigt sur deux points. Je pense que le gouvernement et surtout le président de la République n'a pas compris deux éléments. Le premier, c'est l'ampleur de l'affaiblissement du secteur productif français au cours des 20 dernières années. Nous étions encore en tête de la classe européenne. Si on reconstitue la zone euro en 1990, dans la deuxième moitié des années 90, on est en tête de la classe de la zone euro reconstituée. Mais depuis 2000, c'est un affaiblissement continu qui se fait même en cascade descendante depuis 2004-2005, avec l'apparition d'un déficit extérieur qui ne se réduit pas et qui traduit donc l'insuffisante compétitivité de l'économie française, pas seulement en termes de coûts, mais également d'innovation. Donc, sur ce point, le gouvernement, par exemple, aurait dû, et pour moi, devrait remettre en place un amortissement accéléré, parce qu'on a vraiment besoin d'investir pour renouveler notre appareil de production. Et le deuxième point, c'est évidemment la dépense publique. Le gouvernement, par exemple, aurait pu, en 2017, faire la réforme des retraites. C'est une réforme qui a le double avantage de simultanément réduire la dépense publique et augmenter la capacité d'offre. Le gouvernement, c'est une décision de Macron, a renvoyé ça à 2018, peut-être 2019, peut-être jamais. Et donc, voilà, il a pas pris de face les vrais problèmes du pays.
On va revenir sur tous les points que vous soulevez, mais la réponse qu'offre aujourd'hui le gouvernement pour relancer la croissance, c'est donc cette fameuse loi Pacte, et on va essayer de voir si cette loi pourrait changer la donne.
Le premier impact de la loi Pacte, c'est un impact psychologique. Il y a là-dedans toute l'analyse du cycle de vie de l'entreprise, de sa création à sa mort, sur les seuils notamment, sur les liquidations notamment. C'est beaucoup de dispositions qui sont d'abord et avant tout des dispositions de simplification, avant d'être des dispositions qui ont vocation à créer des emplois. On ne ment pas, hein, c'est écrit dans l'étude d'impact. Il y a toute une analyse qui est parfois contradictoire sur l'effet des seuils sur l'emploi. Je suis très clair là-dessus. L'effet des seuils, le principal, c'est une mesure de simplification et de désanxiogénisation de l'environnement de l'entrepreneur qui grandit. Donc la première chose qu'on doit attendre du pacte, c'est que créer, gérer, développer, internationaliser sa boîte, des sujets que vous gérez au quotidien, ce soit moins la galère, si je puis me permettre, parce que c'est encore le parcours du combattant, et je l'ai vu il y a quelques années lorsque j'étais entrepreneuse. Quoi qu'on en dise, on a encore beaucoup de cailloux qui grèvent le chemin de l'entrepreneur.
Voilà, Olivia Grégoire, députée La République En Marche et présidente de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Pacte. Alors, est-ce que ce texte de près de 1000 pages, le disait, qui touche à des secteurs aussi variés que l'automobile ou les soldes, est vraiment de nature à simplifier la vie des entreprises, Jean-Marc Daniel?
Alors, ce que je trouve intéressant dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est d'abord le mot anxiété, psychologie. Enfin, je veux dire, les chefs d'entreprise n'ont pas besoin qu'on fasse leur psychanalyse au niveau du gouvernement. Il y a des gens pour ça. Ce dont ont besoin les chefs d'entreprise, c'est d'abord de lisibilité. Et donc la simplification, en ce sens, va dans le bon sens. Sauf que le gouvernement a fait voter à l'automne dernier une loi sur le droit à l'erreur. C'est-à-dire une espèce de reconnaissance implicite qu'on est arrivé à un tel degré de complexité que c'est même pas la peine d'essayer de simplifier. C'est impossible à simplifier. Et donc il est normal que les gens se trompent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi sur le droit à l'erreur, il y a des droits à l'erreur sur le droit à l'erreur. C'est-à-dire, le droit à l'erreur souffre pas tout, mais vous avez le droit de ne pas comprendre le droit à l'erreur. Enfin, bon, c'est devenu absolument incompréhensible. Donc, je crois qu'il y a un effort de simplification à faire et qui est extrêmement important. Dans la loi Pacte, moi, ce qui me frappe, pour revenir en deux mots, premièrement, c'est l'étude d'impact. Je suis très impressionné de la précision des chiffres avancés par le ministère des Finances.
Troisième chiffre après
voilà, il y a eu le précision reprise par Bruno Le Maire qui nous a dit, voilà, donc c'est on va améliorer la croissance. Bon.
Oui, il y a Philippe qui promet un point de PIB supplémentaire.
Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Le Maire, reprenant la terminologie de ses services, et je ne dis pas qu'il ne comprend pas, je dis qu'il reprend la terminologie usuelle, parle de croissance potentielle. C'est-à-dire qu'on est véritablement, là encore une fois, dans une stratégie où on ignore le cycle, on ignore les aléas conjoncturels, on passe sur le fait qu'effectivement, telle ou telle mesure à tel moment peut impacter l'évolution à court terme de l'économie. On veut reconstituer cette capacité de produire et de croissance de l'économie française dont vient de parler Christian Saint-Étienne, qui a été effectivement bien abîmée ces dernières années. Or, je pense que les réponses ne sont pas les bonnes réponses. Pourquoi? Donc, pourquoi c'est à partir de 2000 qu'on décroche? Mais c'est à partir des 35 heures. C'est à partir du moment où on s'éloigne d'une forme de norme de organisation du travail, qui est la norme qui s'impose à tous les pays développés. Pourquoi est-ce que il y a un manque de croissance? Effectivement, parce que les entreprises, comme l'a dit la députée, ont besoin d'un certain nombre de clarté. On veut mettre dedans une modification du statut des entreprises telle qu'elle est définie dans le Code civil. Il va falloir maintenant que dans les entreprises, il y ait une nouvelle raison d'être. Vous imaginez ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise, et puis vous imaginez pour quelqu'un qui investit et à qui on va dire, écoutez, l'entreprise a fait faillite, mais au moins on s'est aimé dans l'entreprise. Donc on a satisfait à une des raisons d'être de l'entreprise, c'est le bien-être des salariés. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de confusion et une manque de cohérence dans l'approche du problème.
On va y revenir, mais on reproche effectivement déjà à la loi Pacte d'être une loi un peu fourre-tout, qui manque de colonne vertébrale. On y trouve pêle-mêle des mesures qui visent donc à simplifier les seuils des entreprises, des mesures pour créer son entreprise 100% en ligne. J'en cite certains, soutenir les PME à l'export. Elle manque de colonne vertébrale, selon vous, cette loi, Romaric Godin?
Oui, c'est... Enfin, bon, je suis assez d'accord avec une partie des critiques de Jean-Marc Daniel, pas toutes, mais une partie. Je pense que effectivement, c'est une loi assez classique. On a eu dans le quinquennat précédent une volonté de simplification, voilà, qui sont plutôt bienvenues parce que les simplifications, effectivement, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais est-ce que réellement on répond effectivement au défi que Christian Saint-Étienne a mis en évidence, qui est celui de l'appareil productif et de la modernisation de l'appareil productif français, de l'innovation de l'appareil productif français, de la capacité des entreprises françaises à exporter. On est encore assez loin du compte. Mais je pense que c'est aussi parce que on est dans une volonté de dire, voilà, l'entrepreneur va faire, va être capable, si on le libère, il est entravé, et si on le libère, si on dérégule, on va réussir à trouver la solution. Et en fait, ça, c'est un pari, voilà. C'est un pari qui n'est pas forcément gagné. Et par ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes, et notamment, si on regarde l'étude d'impact qui a été faite par le Trésor, alors après, je suis d'accord, elle est parfois assez risible, mais si on regarde les grandes tendances, on voit que le premier élément qui peut jouer sur la productivité, c'est justement le bien-être à l'intérieur de l'entreprise et notamment le travail collectif entre les salariés et les chefs d'entreprise, et donc la représentation des salariés au sein des entreprises, qui est un tout petit peu améliorée avec la loi Pacte, mais à mon avis pas suffisamment. Et rien qu'avec ça, en théorie, on gagne déjà un tiers de la croissance potentielle rêvée par le gouvernement.
Alors justement, avant de donner la parole à Christian Saint-Étienne, effectivement, vous citez cette mesure. Alors il y en a deux mesures qui visent, je cite, à réconcilier les Français avec les entreprises. Donc cette mesure qui vise à favoriser l'intéressement des salariés d'une part, et de l'autre, l'augmentation du nombre de salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Est-ce que ces mesures ne vont pas dans le bon sens d'une meilleure répartition des bénéfices et du pouvoir?
Alors je voudrais juste dire, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce sont des mesures qui sont extrêmement timides. de ce point de vue. La France est encore, les salariés français sont encore très largement sous-représentés par rapport à la moyenne européenne dans les entreprises. Et cette mesure, qui va en deçà de ce que proposait le rapport Nota-Sénard de ce point de vue, est extrêmement timide. Quant à la mesure concernant l'intéressement des entreprises, c'est une mesure fiscale en faveur de l'entreprise. Donc c'est, encore une fois, c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation pour les PME à mettre en place cet intéressement. C'est en fonction de... toujours la même chose avec ce gouvernement. On fait des incitations fiscales et on pense que l'incitation fiscale va régler les problèmes structurels de la France.
Christian Saint-Étienne, sur ces mesures qui visent précisément à augmenter l'intéressement des salariés et en même temps à leur donner plus de pouvoir au sein des conseils d'administration, mesures trop timides, dit Romaric Godin, quel est votre regard ?
Ce qui est proposé sur les conseils d'administration va dans la bonne direction. C'est peut-être trop timide, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ce qui m'inquiète, c'est que on est toujours dans la gestion quotidienne. Non, je rêvais tout à l'heure en vous écoutant. Ça fait un certain temps que j'y pense. On a un appareillage de représentation pour l'hygiène, les conditions de travail, les conditions sociales dans l'entreprise qui est colossal. On s'affleure bon les années 60. Mais si je reprends ce que je disais tout à l'heure, on crève de quoi ? D'absence de stratégie nationale, mais aussi de stratégie d'entreprise. Il faut quand même rappeler qu'on a 120 000 entreprises qui exportent dans notre pays, là où il y en a 200 000 en Italie et 300 000 en Allemagne, voire même plus en Italie. Et il faut rappeler que l'Italie a un excédent extérieur. Nous traînons avec un colossal déficit extérieur qui mine et casse la croissance. Le déficit extérieur, c'est pas un truc technique. Hein. Ça nous a coûté un demi-point de croissance chaque année depuis 15 ans. Donc c'est un truc énorme.
Donc vous dites que cette loi PACTE, elle n'est pas à la hauteur.
Et là, donc, le rêve que je fais, moi, depuis plusieurs années, c'est de simplifier énormément les seuils et la représentation des salariés pour ces questions techniques. Ça ne veut pas dire que le bien-être n'est pas important, mais il est plus que pris en compte. Et en revanche, moi, je mettrais bien un comité stratégique en place, sans monopole des syndicats, où les salariés, tous les deux ans, pourraient présenter à leurs camarades et se faire élire sur un projet stratégique pour la boîte qu'ils porteraient dans ce comité stratégique. Pourquoi ? Bon, je vais peut-être choquer ici, mais on a beaucoup, énormément et à juste titre, parlé depuis 15 ans des deux grandes déficiences françaises qui sont le coût du travail et la faiblesse de l'innovation. Mais il y en a une troisième déficience à laquelle il va falloir porter remède. Je pense que les chefs d'entreprise français, en moyenne, il y en a des très bons, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de vision stratégique, qui ne contribuent pas assez à la modernisation de leur boîte. Et plutôt que de convoquer toujours les travailleurs sur comment on améliore la cantine, peut-être qu'on pourrait, forcément, dans une boîte de 70 personnes, il y en a forcément un ou deux qui ont des visions stratégiques très bonnes et ça serait bien de les inciter à les porter devant leurs camarades pour titiller le chef d'entreprise et l'obliger à réformer, à investir et se développer.
Jean-Marc Daniel, Romaric Godin sur cette question.
Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que business of business is business, comme disait Milton Friedman. J'en reste à cette vision. Le chef d'entreprise, il a ses responsabilités, qui est de faire du profit. Le salarié a d'autres formes de responsabilités. Ça ne veut pas dire que le chef d'entreprise est forcément structurellement un sadique et un monstre. Mais chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Et je pense que le véritable enjeu, et on l'avait vu au travers de la loi Macron, vous vous souvenez de la loi Macron quand il était ministre de l'économie, c'était d'une certaine façon de répercuter le rapport Attali, qui était lui-même plus ou moins une ressucée du rapport Cambdessus. Et dans ces rapports, on voyait apparaître l'idée que finalement, ce qui reste comme outil véritablement opérationnel pour les gouvernements et comme outil également politique, parce que ça correspond aussi à une vision qu'a l'Europe, les institutions européennes de l'économie, le véritable outil, c'est la concurrence. Et donc, il y avait cette idée qu'il fallait casser les professions réglementées, briser les rentes, qui est un mot qui s'est mis à circuler à ce moment-là, au moins de l'affaire du rapport Attali. Et donc, il y a une espèce de logique de tout ça, dont Emmanuel Macron était d'une certaine façon l'héritier, puisqu'il avait été un des rapporteurs du rapport Attali, qu'on voyait assez bien dans le rapport, dans la loi Macron, qu'on voit moins bien ici. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. La croissance de long terme, c'est du travail que l'on mobilise, donc il faut se poser des questions sur est-ce qu'on va augmenter la la durée du temps de travail, par exemple en retardant l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'on va faire sauter le verrou des 35 heures? Et puis c'est de la productivité. La productivité, ça s'obtient en incitant les entreprises à investir. Alors, ça peut être par des mesures fiscales, mais là où je rejoindrai ce qui a été dit, les incitations fiscales, la psychologie, en revanche la concurrence. Quand vous avez l'épée dans les reins d'un concurrent qui est en train de lui d'innover, mais vous vous mettez à innover. Et donc je pense que ça c'est le bon outil. Et puis toute dernière remarque, ce qu'il y avait chez Macron, ministre de l'économie, il avait fait un assez beau discours au MEDEF où il disait que Manuel Valls parlait d'une société employeur-employé, d'une société qui résorberait le chômage par la dynamique des entreprises et des employeurs, que lui, il voyait naître une société client-fournisseur, c'est-à-dire une dynamique où les gens ne cherchaient pas forcément systématiquement à être salariés, mais à créer eux-mêmes leur entreprise, à devenir eux-mêmes entrepreneurs. Et donc, cette société de l'entrepreneuriat, elle est moins en valeur dans la loi Pacte, à mon avis, telle qu'elle est et telle qu'elle aurait pu y être, compte tenu des propos antérieurs d'Emmanuel Macron.
Alors, il y a quand même une nouveauté, vous voulez réagir avant,
oui, Romain Gaudin. Simplement rebondir sur ce qu'a dit Christian Saint-Etienne. Moi, je crois que c'est un élément très important qui est effectivement pas assez souligné. C'est la qualité du management français. C'est les choix stratégiques qui ont été faits par les entreprises françaises. Et ça, on le voit très clairement. Et c'est aussi pour cela que les différentes politiques qui ont été menées depuis 2010 ont en partie échoué. C'est qu'on voit très bien, depuis fin 2013, l'investissement en France repart. Il repart très fort. On a un taux d'investissement très élevé. Mais c'est la qualité de l'investissement qui pose problème. Et la qualité de l'investissement, c'est pas les salariés qui l'a décidé. Enfin, en tout cas, pas dans la structure d'entreprise actuelle. Et quand on fait simplement une suppression de l'ISF ou une sorte de bouclier fiscal sur les revenus du capital, eh ben, on ne dit rien de ce problème majeur qui est celui de la qualité de l'investissement, de l'innovation et de faire de l'investissement qui permet de gagner des parts de marché. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu du coût du travail, à moins qu'on ait envie de réduire très fortement le coût du travail français pour aller concurrencer les Espagnols, les Portugais sur leur marché, dans ce cas, il y aura des conséquences sociales. Mais si on veut maintenir une cohésion sociale en France, il faut aussi monter en gamme, et pour ça, il faut avoir des choix stratégiques qui soient des choix stratégiques importants. Et je crois que la participation des salariés dans les décisions de l'entreprise peut permettre aux chefs d'entreprise justement de prendre conscience de certaines de ces erreurs et de corriger le tir si besoin.
Juste un truc pour illustrer. Non, mais parce que je comprends très bien. Il ne s'agit pas de mettre des commissaires politiques, hein, ce que craint peut-être Jean-Marc Daniel, mais je précise un point technique très fort. Les avis de ce comité stratégique seraient purement indicatifs. Le chef d'entreprise fait ce qu'il veut. Mais pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, ça fait 7-8 ans, et ça se confirme tout le temps, l'utilisation des outils numériques par les Français chez eux est au top mondial, avec les meilleurs pays du monde en termes d'utilisation de tous les outils numériques. Hein, on est à plus de 90% et beaucoup d'appétence et de connaissances d'utilisation des outils numériques quand on est à la maison. Et puis, notamment chez les PME, toutes les études de McKinsey et autres montrent que le taux d'utilisation des innovations numériques dans les entreprises française est très en retard par rapport à ce qui est comparable dans les entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, anglaises. Donc, comment, à la limite, si le chef d'entreprise sait pas faire, il demande à ses salariés, quoi, parce que ce sont peut-être des technologies nouvelles, et voilà. Aujourd'hui, une PME de 30 personnes qui a pas de site, où on peut pas faire de commandes, ou au moins s'enquérir des produits, c'est très courant et c'est catastrophique.
Alors, je voudrais qu'on vienne à un point précis de cette loi Pacte, qui propose notamment de repenser la place de l'entreprise dans la société, en révisant l'article 1833 du Code civil. Alors, désormais apparaîtra la nécessaire prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux. Alors on a beaucoup dit que c'était une mesure qui était trop symbolique, et en même temps, si c'est si symbolique, Romaric Gaudin, pourquoi est-ce que le patronat s'y oppose aussi fermement? On a entendu c'est une offensive idéologique, on a entendu également Pierre Gattaz dire qu'on ouvrait la boîte de Pandore, et que ça allait entraîner une multiplication des contentieux juridiques. Alors est-ce que tout de même cette nouvelle notification des enjeux sociaux et environnementaux va avoir des conséquences concrètes?
D'abord, je voudrais parler justement de cette question, parce que je pense qu'il y a deux visions qui sont clairement opposées, et le gouvernement n'a pas tranché entre ces deux visions. La première vision, celle que moi je peux défendre ici, c'est celle de considérer que effectivement, si on est dans une logique, comme l'a décrit Jean-Marc Daniel, purement concurrentielle et de marché, on va avoir du mal à relever un certain nombre de défis sociaux et particulièrement environnementaux, et aussi environnementaux. Et que pour ça, il faut donner à l'entreprise une forme d'obligation de prendre en compte dans son activité, une activité de profit, on est toujours d'accord, et le premier alinéa de cet article ne change pas, qui précise que l'entreprise a pour mission de générer du profit pour ses associés, mais que ce profit doit être généré dans un cadre qui est celui du respect d'un certain nombre d'obligations sociales et environnementales. Il y a une autre vision, qui est celle que défendra sans doute Jean-Marc Daniel, qui est celle de dire, ben non, le marché va s'adapter et d'une certaine façon, on va pouvoir relever ces défis-là via des mécanismes de marché. Ça, après, c'est de la, je dirais, c'est des visions philosophiques. Ça fait l'objet d'un débat, ça devrait faire l'objet d'un débat politique profond. Ça devrait faire l'objet d'un choix des citoyens français. Sauf que, en fait, dans cette loi Pacte, on a fait les deux. On a gardé le premier, donc on fait du profit. Et puis on a rajouté juste pour faire plaisir à l'autre côté qu'il faut que tout ça se fasse dans un cadre, en précisant très bien que c'était uniquement pour maintenir la jurisprudence actuelle, parce qu'il y a actuellement toute une jurisprudence de ce point de vue qui a déjà été développée. Il y a d'autres lois qui ont été mises en place, la loi devoir de vigilance, etc. Bon.
Donc pas d'obligation.
On dit bien
qu'il ne
faut pas que ça crée des obligations nouvelles. Ça, Bruno Le Maire l'a bien dit. Mais si ça ne crée pas d'obligations nouvelles, ça ne sert strictement à rien. Donc autant rester avec l'article 1832-1833 comme il était auparavant.
Et pourtant, encore une fois, on a entendu parler de risques culturels. Jean-Marc Daniel, sur cette mesure.
Oui, alors je ne vais pas redire ce que je partage. Effectivement, le point de vue que je défends, effectivement, c'est que la bonne façon de réguler le comportement de l'entreprise, c'est la concurrence. On voit bien qu'une entreprise qui perd la confiance de ses consommateurs parce qu'elle a une mauvaise réputation, parce qu'elle a la réputation de polluer, parce qu'elle a la réputation de mal se comporter avec ses salariés, est une entreprise qui, effectivement, est condamnée. Et donc, c'est par la concurrence et par le rapport au marché et à ses consommateurs que l'on influence le comportement de l'entreprise. Mais pour aller un peu plus loin, et d'ailleurs, j'avais pris position dans la presse sur le fait que derrière cette loi, ce que je trouve inquiétant, c'est la remise en cause de plus en plus évidente dans les propos de certains du droit de propriété. On commence à voir apparaître un discours en disant mais l'entreprise, effectivement, et c'est, on est à mi-chemin, et puis c'est bancal et tout ça, et l'entreprise, si elle ne peut pas respecter un certain nombre de règles, eh bien, on va sortir le respect du droit de propriété de la Constitution, puisque le droit de propriété, par l'intermédiaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de propriété est préservé par la Constitution. Et il y a un certain nombre de gens qui disent, on ne va pas assez loin, il faut carrément sortir ça de la Constitution. Et je crois que là, c'est là l'histoire de la boîte de Pandore. On ouvre une boîte de Pandore qui est une boîte de Pandore très très dangereuse. C'est-à-dire, et je suis d'autant plus surpris que les gens ne voient pas ça, c'est que au moins à une époque, il y avait des gens qui contestaient le droit de propriété. Je cite assez souvent Gabriel Péri, qui était l'économiste du Parti communiste dans les années 30. Il disait de deux choses l'une, ou bien vous laissez vivre les entreprises, ou bien vous faites le socialisme. Mais la situation intermédiaire, qui consiste à dire je fais pas le socialisme, mais je pose aux entreprises tout un tas de choses qu'elles ne pourront pas honoré, est une situation qui est une situation qui conduit à la catastrophe. Et là, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, en ménageant, soi-disant, l'aile gauche et l'aile droite du macronisme, en disant « mais, et en même temps, et ceci et cela », d'une part, encore une fois, on commence à voir apparaître des discours qui menacent ce principe fondamental qui est le droit de propriété, et d'autre part, on arrive à des situations bancales qui ne peuvent que mal se terminer sur le plan de la croissance économique.
Christian Saint-Étienne, vous partagez cette inquiétude, une menace sur le droit de propriété. Et d'abord, on peut se demander aussi si les entreprises vont vraiment s'emparer de ces nouveaux enjeux sociaux et environnementaux qui sont inscrits dans le Code civil.
Il y a deux sujets qui sont évoqués par les deux autres intervenants et je pense qu'il ne faut pas les mélanger. Il y a effectivement la question des droits sociaux et environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle transparence et une telle dissémination de l'information que on sait assez vite si un abattoir se conduit pas bien, si telle entreprise traite mal ses ouvriers. Donc, par ailleurs, il y a une quantité phénoménale de lois sur le droit droit du travail, la protection des catégories, ainsi de suite. Donc je pense que c'était pas la peine de rappeler dans la loi, dans l'objet de l'entreprise, qu'elle doit respecter les enjeux sociaux, environnementaux, parce que de toute façon elle le fait. Donc il n'y a pas de novation. Il y a un risque néanmoins de procès qui n'aboutiront probablement pas, mais ça sera une perte de temps pour les chefs d'entreprise. Donc je pense pas que ce soit une bonne innovation. En revanche, moi, ce que je préférais, je suis désolé, je reviens à ce que je disais, je préférais qu'on pousse les entreprises à investir, à innover. C'est la seule façon de sauver l'emploi. Et l'autre point, alors là, je rejoins totalement Jean-Marc Daniel, le droit de propriété. En France, c'est traité de façon philosophique ou idéologique, c'est une erreur fondamentale. Le droit de propriété, c'est un droit de la personne humaine clé. Alors, à une époque où on met le RGPD pour qu'on pique pas vos données ou qu'on les monétise pas dans votre dos, sans parler de pire, à une époque où la question de la dignité de la personne est fondamentale, le fondement de la dignité de la personne, c'est le droit de la propriété dans toutes ses extensions, parce que c'est pas seulement la terre ou la maison, c'est le droit de propriété de ses idées, de son image. Donc c'est toutes les extensions du droit de la propriété qui sont le fondement de la liberté, et ça, cette dimension-là est souvent pas perçue par en France, où on reste comme si on débattait en 1789 dans une société rurale.
Alors vous êtes en train de dévoiler un petit peu le sujet qu'on va traiter dans notre émission lundi. On va parler des communs, et justement la notion de commun, est-ce qu'elle remet en question cette notion de propriété privée? Mais Romaric Godin, je voulais réagir.
Juste deux choses, d'abord sur le droit de propriété, mais puisque vous avez parlé des communs, effectivement, il y a aussi des objets qui concernent tout le monde, et le droit de propriété qui doit sans doute être respecté. En tout cas, ce droit de propriété, il donne pas le droit de tout faire. Et donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important. Donc que la loi rappelle que le droit de propriété n'est pas un droit qui permet de tout faire sur sa propriété. Bon, à la limite, voilà. Le deuxième élément,
est d'accord, et j'illustre. Vous pouvez être propriétaire d'un terrain sur lequel vous avez une usine, mais vous n'avez pas le droit de polluer tous les gens qui sont en dehors. Donc là, on est complètement d'accord.
Y compris le sol sur lequel vous êtes qui vous appartient.
Voilà. Donc,
le deuxième point, très rapidement. Moi, je voudrais revenir sur cette histoire que le marché s'autorégule, et que effectivement aujourd'hui une entreprise qui ne respecterait pas ses enjeux sociaux et environnementaux serait fortement sanctionné par le marché, les consommateurs, etc. Moi, je crois qu'il faut distinguer la communication, qui aujourd'hui toutes les entreprises communiquent sur ces sujets-là, et puis la réalité. Et la réalité, et nous, Mediapart, on en parle assez souvent, c'est que aujourd'hui encore, on est face à des entreprises qui, pour des raisons de profit, donc pour le premier paragraphe de l'article 1832, eh bien, ne respectent pas ce qui va être le deuxième paragraphe de l'article 1832.
écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
On entendait White Collar Worker par The Ministry of Sound. On parle toujours de la politique économique de Macron avec Christian Saint-Etienne, Jean-Marc Daniel et Romaric Gaudin, alors que le Parlement a ouvert le grand chantier de la loi Pacte pour les entreprises. Et alors la réforme du Code du Travail a été publiée au Journal officiel il y a tout juste un an. Alors on s'en souvient, l'objectif c'était de fluidifier le marché du travail pour diminuer le chômage. Or en juillet, le chômage est même reparti à la hausse à 9,2%. On peut parler tout au moins d'un bilan mitigé sur l'emploi de cette loi travail, Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense qu'il y a deux éléments à mettre en avant. Le premier, c'est, comme je le disais, ce retournement cyclique, c'est-à-dire que l'économie française replonge dans le ralentissement qu'elle a connu avec une violence très forte en 2008-2009. Là, on n'était pas dans le ralentissement, là, on était véritablement dans la crise avec une amplification de la dynamique cyclique par les composantes financières. Et donc, le chômage bute sur... Et le deuxième élément, c'est que quand on demande aux chefs d'entreprise, pourquoi ils n'embauchent pas? Ils disent qu'ils ne trouvent pas sur le marché du travail les compétences dont ils ont besoin. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le Geoffroy Roux de Bézieux. Alors je ne sais pas si on peut se permettre de citer
le président du MEDEF,
mais je vais le faire pour apporter mon soutien au président du MEDEF. Et à l'université d'été, il a dit que désormais il fallait vivre avec les trois C, c'est-à-dire la constance, la compétitivité et la compétence. Et je crois que l'enjeu maintenant de l'économie française, pour rejoindre d'ailleurs un peu ce qu'on disait précédemment, c'est avoir une lisibilité, une certaine constance, une certaine forme de cohérence dans la politique économique et dans les réformes qui sont mises en jeu, la compétitivité, sachant que le patronat, donc, qu'on a beaucoup critiqué, a beaucoup vécu dans les années passées, jusqu'à l'euro, avec l'idée que ces manques de compétitivité, ça se terminerait par une dévaluation. On parlait récemment de mai 68, pourquoi est-ce qu'en mai 68, le patronat avait accepté la hausse spectaculaire du SMIC? C'est qu'après, ils étaient allés voir du SMIC à l'époque, ils étaient allés voir Pompidou en disant « mais vous dévaluez dans la foulée ». C'est-à-dire, vous mettez 30% de plus et puis on dévalue dans la foulée. Alors ça, c'est pas à l'ordre du jour et donc il faut effectivement s'adapter à ça. Et puis la compétence. Alors il y a un mot magique, tout le monde parle tout le temps, la formation, mais il faut rentrer dans le concret. C'est-à-dire, il faut passer de l'incantation en la matière véritablement à des actions très concrètes.
Alors la question, c'est aussi comment les entreprises se sont emparées de la loi travail, parce que si on en croit les sondages récents, le contenu des ordonnances travail reste flou pour la majorité des chefs d'entreprise. Alors, est-ce que c'est la loi qui était mauvaise ou la pédagogie qui en a été faite, Romaric Gaudin?
Comme souvent avec les réformes de simplification, en fait, ça a plutôt complexifié les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours... on rajoute, en fait, puisque le code du travail qu'on critique beaucoup, c'est un code qui est rempli d'exceptions, en fait, et on en rajoute, en fait. Donc voilà, bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces ordonnances ne sont la suite que d'autres. Hein. La première grande réforme du travail récente, il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais c'est la loi Rebsamen, hein, c'est 2015, il y a eu la loi El Khomri ensuite, donc on peut commencer quand même à tirer des conséquences, enfin des conclusions de ces lois. Et on voit que effectivement, vous l'avez dit, c'est le bilan est quand même assez mitigé.
C'est la flexibilité sans la sécurité, ça
c'est la flexibilité sans la sécurité. Parmi la sécurité, Jean-Marc Daniel l'a dit, il y a effectivement la formation, l'aspect formation, et ça je pense que il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus. On nous a promis un plan formation de 15 milliards qui est toujours pas financé, qu'on sait pas comment il va se mettre en place, etc. Il y a aussi une responsabilité des entreprises dans la formation de leurs salariés et des demandeurs d'emploi. C'est aussi un élément qu'il faut pas oublier. C'est un investissement de former des entreprises, et il faut quand même le dire, quand on regarde l'évolution du comportement des entreprises vis-à-vis de l'emploi, en France, souvent, on préfère licencier que de conserver des compétences. C'est une des grandes différences. Alors, on peut en discuter, il y a d'autres éléments. C'est une des grandes différences, notamment avec l'Allemagne. Et quand on regarde ce qui s'est passé en 2009, on voit très bien que le comportement, alors que le choc en Allemagne a été plus fort, les entreprises françaises ont plus licencié que les entreprises allemandes. Juste pour terminer, donc il y a cet élément-là. Et je crois que la vraie seule conséquence aujourd'hui qu'on voit des ordonnances et des réformes du marché du travail, c'est que les salaires n'évolue pas plus aussi rapidement que l'inflation. Il y a une perte de salaire nette en ce moment dans le secteur privé. Et ça pèse évidemment sur la conjoncture, ça pèse sur la demande. Et comme les entreprises françaises n'exportent pas, ça pèse également sur leur carnet de commandes.
Alors dans ce contexte, on a du mal à imaginer comment la promesse d'Emmanuel Macron d'atteindre 7% de chômage en 2022 pourra être tenue. Mais alors Christian Saint-Etienne, vous allez nous dire, vous, que la loi travail, elle n'est pas allée assez loin. Et que c'est pour cela peut-être qu'on constate aujourd'hui ces résultats.
Alors oui, elle n'est pas allée assez loin. Il faut quand même aussi prendre en compte que les réformes sur le marché du travail ont rappelé les trois lois successives Rebsamen, El Khomri, Macron. Ces trois lois successives, elles commencent seulement à être mises en œuvre. Donc il faut laisser 2-3 ans pour voir les effets. Mais
depuis 2015, on peut commencer à voir les effets.
Ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Les dégâts, ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'en économie, hein, quand une mesure est significative, elle peut prendre de 18 mois à 3-5 ans avant de produire des effets forts. Hein. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'amortissement accéléré, il doit commencer à donner des résultats. Il était de mémoire en place depuis 18 mois. Et le gouvernement a cassé ce phénomène de reconstitution. Les auditeurs n'ont pas forcément à l'esprit que la durée de vie moyenne des machines de l'appareil de production français aujourd'hui, c'est juste le double de la durée de vie moyenne en Allemagne. Par ailleurs, le niveau de robotisation est plus faible dans nos usines qu'en Espagne. Voilà, donc il y a 100 milliards d'euros à 200 milliards d'euros à réinvestir dans notre appareil de production sur 3-4 ans. Et le gouvernement n'a pas pris cette mesure en compte. Donc sur les lois travail, je pense qu'il y a des choses intéressantes, mais notamment liées à ce que disait Jean-Marc Daniel, la loi sur la formation, elle est passée juste au mois de juin. Là, pour rebâtir les compétences, je disais tout à l'heure qu'en économie, c'est de 18 mois à 3-5 ans quand c'est significatif. Sur les compétences, c'est 7 à 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc c'est tout un travail colossal. La loi sur la formation professionnelle et la réforme des centres d'apprentissage, si on la réussit et si elle est mise en œuvre, ça peut produire des effets très significatifs. Il y a une mesure qui manque dans tout cet appareillage. Moi, je continue de penser, pour des raisons strictement de technique économique, on a tort de ne pas s'attaquer au seuil de 50 salariés. Hein, c'est parce que quand on regarde et qu'on analyse la progression d'une entreprise, il y a trois grands seuils de transformation des entreprises. C'est 30, 70 et 200. À ces trois seuils de progression des entreprises, il faut à chaque fois une nouvelle organisation et un nouveau style de management. Et de ces trois seuils, les entreprises françaises passent le seuil de 30 aussi bien que les Allemandes, mais il y en a deux fois moins qui passent le seuil de 70. Et un des points de blocage, c'est le seuil de 50. Et d'ailleurs, la question, c'est pas de le supprimer, c'est de le passer au-dessus de 70. Hein, si on mettait le seuil de 50 à 75, ça serait extrêmement puissant en termes de création d'emplois. Si vous voulez, je le développe après. Mais ça, on aurait pu le mettre dans la loi Pacte et le gouvernement recule. Je pense qu'il y a pas assez de travail qui est fait sur le terrain sur ces questions-là. C'est trop technocratique.
C'est aussi une question de seuil, Romaric Godin, Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense que c'est une question de seuil. Ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est que Christian Saint-Etienne ne le dit pas pour la première fois. Il l'a dit, d'ailleurs, dans un rapport du Centre d'analyse économique qui a été remis officiellement au Premier ministre et tout ça. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. De même que, sans vouloir flatter, Christian Saint-Etienne a rédigé pour le CAE un rapport avec Jacques Lecacheux sur la fiscalité, où tous les deux disaient qu'il fallait supprimer l'ISF, que c'était un moyen de relancer la croissance, et c'était expliqué clairement. Ça n'a pas empêché que nous avons sur le dos une polémique sur le thème qu'en supprimant l'ISF, on fait la politique des riches. Et moi je dis, on ne fait pas la politique des riches. J'ai une formule dans le livre dont vous parliez, je dis on fait la politique des ruches. C'est-à-dire on remet les gens au travail. Et il y a des moments où un certain nombre de mesures sont mises en avant par les experts et on ne voit pas pourquoi le gouvernement n'essaie pas de les appliquer si elles sont le fruit d'une réflexion, puisqu'on voit bien qu'on est dans une situation de blocage, pourquoi ne pas les appliquer? Dernière remarque que je ferai, je rejoindrai l'idée que toutes les réformes qui ont été faites, donc Rebsamen, El Khomri, ça a généré effectivement une complication générale qui font que les chefs d'entreprise, dont on a parlé tout à l'heure en disant qu'ils n'étaient pas toujours très bons, mais il y a des moments où c'est un problème de, non pas d'intelligence, mais c'est, il faut parler un certain langage qu'aucun être humain, chef d'entreprise ou non chef d'entreprise, ne peut maîtriser. On est arrivé à des degrés de complications absurdes et totalement artificielles, et on a systématiquement des commissions de simplification. Chaque gouvernement crée une commission de simplification dont le premier travail est de prendre le travail de la commission précédente et de le jeter en disant ils n'ont rien compris. Et on repart à zéro et il ne se passe toujours rien. Donc là, Christian Saint-Étienne vient de dire une chose de bon sens qu'il avait déjà dite. Si on pouvait persuader nos gouvernements de l'appliquer une bonne fois pour toutes...
Et au moins, c'est pas une révolution en plus. C'est fondé vraiment, si vous voulez, à 70 salariés, qu'est-ce qui se passe dans une boîte? Il faut créer un comité de direction, il faut réorganiser la boîte. Le patron fondateur, si c'est le cas, ne peut plus... À partir de 70, diriger la boîte, ça a des coûts, ça a un élément de transformation, et c'est notamment pour appliquer toutes les lois qui se déclenchent à 50, il faut un DRH. Souvent, les boîtes de 50 n'ont pas le DRH, donc elles s'arrêtent à 48 pour ne pas tomber sous les conséquences du passage du seuil, alors qu'à 70, elles se dotent naturellement du DRH, donc à 75, elles n'ont pas de problème pour appliquer la loi. Mais si vous couplez d'ailleurs tout ce que je viens de dire sur ces seuils sociaux avec la nécessité d'obliger au sein des entreprises à une discussion sur l'innovation stratégique que j'évoquais tout à l'heure, vous pourriez avoir un développement significatif en interne. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que ce soit à l'intérieur des boîtes qu'il se passe quelque chose.
Vous parliez des réformes fiscales, Jean-Marc Daniel. En effet, la disparition de l'ISF, pardon, la flat tax qui est arrivée, qui visait donc à défiscaliser le capital. On voit bien que c'est un choix qui est avant tout politique, défiscaliser le capital plutôt que relancer par la consommation intérieure. C'est ça le choix qui a été fait. Et pour vous, il est discutable, Romaric Godin.
Ben oui, c'est la priorité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, qui a été donnée. Alors, est-ce que c'est pas une politique des riches? Ben si, c'est une politique des riches. Malheureusement, l'ISF, c'est un impôt sur la fortune. Donc, c'est bien les riches qui bénéficient de la suppression de l'ISF.
Il a été remplacé est-ce par un impôt
ensuite,
sur la fortune immobilière.
Le pari du gouvernement, c'est de dire les riches, ils vont ensuite réinvestir dans ce qu'on a évoqué au début, c'est-à-dire l'appareil productif français, l'investissement, etc.
Mais ça,
c'est sans garantie, puisque on laisse en fait les gens décider tout seuls. Et dans un monde qui est mondialisé, financiarisé, vous prenez un pari que en fait Emmanuel Macron est en train de perdre, tout simplement. Voilà. Donc on a retiré 5 milliards de recettes fiscales qu'on va trouver par ailleurs, notamment sur ce qui permet de réduire les inégalités en France, qui sont les transferts sociaux. Et puis, on va attendre et il ne se passera rien.
Christian Saint-Étienne, Jean-Marc Daniel, un mot de conclusion. On arrive presque au terme de cette émission.
Oui, je crois que si on devait résumer toute notre conversation, c'est que ce dont ont besoin les entreprises, ce dont a besoin la France, c'est de la croissance. Il y a 30 ans déjà, François Mitterrand avait dit que ce sont les entreprises qui vont créer des emplois et porter la croissance. Et donc, ce dont on a besoin, c'est non pas des discours « My government is pro-business », c'est des actions pro-business.
Christian Saint-Étienne ?
Je pense que ce qui manque actuellement au niveau du pays, c'est une capacité de rassembler les forces productives, comme on le faisait au temps du plan dans les années 50-60. Non pas qu'il faille revenir à la planification, mais une planification stratégique et l'expression d'une volonté collective de restaurer la croissance dans le pays, c'est quelque chose d'absolument décisif. Et je pense que s'il n'est pas souhaitable, peut-être compte tenu du caractère archaïque de beaucoup de syndicats, de le faire au niveau national, parce qu'on n'a peut-être plus l'énergie ou la vision ou la volonté de croître qu'on avait dans les années 50-60, il faut le faire à l'intérieur des entreprises, parce que sinon on va crever, c'est tout.
Merci beaucoup, en tout cas Romaric Godin, journaliste économique chez Mediapart, Christian Saint-Étienne, président du think tank France Stratégie. Je rappelle votre livre « Osons l'Europe des Nations » aux éditions de l'Observatoire. Et merci à vous, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, auteur de « Macron, la valse folle de Jupiter » aux éditions de l'Archipel. Il est 14h48, presque 49 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho.
Musique.
aujourd'hui le second livre que l'on va déposer sur notre étagère. C'est la lettre à nos petits-enfants de John Maynard Keynes. Et c'est vous qui en avez signé la préface. Bonjour André Orléans.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et ancien président de l'Association française d'économie politique, l'AFEP. Vous avez donc signé cette préface, la préface de ce court essai de Keynes paru en 1930 et réédité l'année dernière aux éditions des Liens qui libèrent. En quoi cet ouvrage a-t-il toute sa place dans notre bibliothèque idéale de l'écho? Pourquoi faut-il le lire selon vous?
Alors ce qui fait la spécificité de cet article qui est très court, c'est d'une part des prévisions économiques que fait Keynes en 1930 et il fait des prévisions économiques pour 2030. Donc vous imaginez le risque qu'il prend. On voit mal par exemple aujourd'hui des économistes qui feraient des prévisions à 2120. Donc d'une part il y a cet aspect prévision, il prévoit que en fait le niveau de vie va augmenter entre 4 et 8 fois sur ces 100 ans. Et la deuxième chose qui me paraît aussi très intéressante, c'est qu'à à cette occasion, il livre sa vision du capitalisme. Et donc il a toute une analyse sur les ressorts du capitalisme qui sont extrêmement intéressants.
Keynes, donc économiste anglais, je le rappelle, né en 1883, mort en 1946. Dans quel contexte rédige-t-il cette lettre sur l'avenir du capitalisme? On est juste après le krach de 29.
C'est ça, oui. Donc on est dans une période plutôt très très pessimiste, ce qui rend donc ces prévisions qui sont, elles, très optimistes, parce qu'ils pensent que le niveau de vie va augmenter de manière très forte, comme je le disais, donc tout à fait étonnante. Il le fait, en fait, sur une base de compréhension du capitalisme qui est assez fine, qui est d'ailleurs saluée énormément aujourd'hui par tous les économistes, parce qu'à l'époque, en 1930, il n'existe pas de théorie de la croissance, elle viendra en fait dans les années 30. Donc à partir de son analyse, il prévoit cette croissance énorme, alors que, comme vous le dites, on est dans une période tout à fait de crise, mais il pense qu'elle va être dépassée et que c'est juste une crise de croissance.
Et donc il prévoit en effet en 1930 que le niveau de vie sera 4 à 8 fois supérieur dans 100 ans. Et en fait, dès le début du XXIe siècle, cette prévision se vérifie. Et cela alors même que, et vous le dites dans votre préface, les outils dont disposait Keynes étaient extrêmement rudimentaires à ce moment-là. Et ce qui est marquant aussi, c'est peut-être sa confiance dans la capacité du capitalisme à rebondir, qui n'était pas très courante à l'époque.
Oui, mais ce qui est plus encore intéressant par rapport justement à cette question du capitalisme, c'est son idée en fait qu'il développe dans ce texte, que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire, comme certains ont pu le penser, c'est-à-dire que la société de marché, pour lui, n'est qu'en fait un régime transitoire, celui au cours duquel l'humanité doit passer pour résoudre son problème, qui est quoi? Qui est le problème de la subsistance et de la rareté. Donc il pense le capitalisme en fait comme une phase transitoire, et il pense d'ailleurs qu'au bout d'une centaine d'années, on en sera sorti. Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que d'ordinaire, le libéralisme, il est un libéral, a plutôt tendance à penser que c'est le bon système économique, celui qui permet d'exprimer la liberté des individus, etc. Alors lui, il n'a pas du tout cette optique, et même il est assez négatif sur les ressorts de la croissance capitaliste.
Vous expliquez que Keynes se trompe lorsqu'il dit qu'une fois ses besoins satisfaits, l'homo economicus sera libéré de son principal vice, l'amour de l'argent et de l'épargne. L'erreur de Keynes a été de penser que les besoins humains pouvaient être rassasiés, alors même que la logique du capitalisme, écrivez-vous, est inverse.
Ben oui, c'est ça. Son idée, si vous voulez, c'est que il a un modèle assez simple, c'est que l'économie doit répondre aux besoins. Et donc, comme il pense que en 100 ans, on aura réglé tout le problème des besoins, alors l'économie passera au second ordre. Le problème, c'est que c'est démenti. C'est démenti par le fait qu'il avait une autre prévision, c'est que du fait que les besoins étaient satisfaits, eh bien, le temps de travail baisserait de manière dramatique. Il prévoyait un temps de travail de 3 heures par jour. Là-dessus, il s'est tout à fait trompé. Et donc, ce qu'on peut remettre en cause, c'est cette prévision sur les 3 heures de travail par jour, parce que, en fait, il ne comprend pas véritablement le mécanisme des besoins. Les besoins sont plutôt une production du capitalisme que quelque chose de naturel qui serait disponible aujourd'hui. Donc, en fait, le capitalisme fonctionne en faisant du profit, il fait du profit en vendant des marchandises, et donc il doit tout le temps faire en sorte que ce besoin de marchandises ne cesse de croître et donc d'inventer de plus en plus de marchandises de façon à ce qu'elles soient désirées. Et donc, si on a ce modèle-là, on comprend bien que c'est pas aussi simple. Il n'y a pas un moment donné où il y a des besoins qui sont résolus. Au contraire, on a l'impression que si ça fonctionne comme ça, comme on le voit bien, il y a aucune limite, et sauf les limites de la planète.
Vous citez une autre définition qui est volontairement provocante de la société d'abondance, celle de Marshall Salins, qui dit que une société dans laquelle on adapte simplement ses besoins à son environnement, c'est cela finalement une société d'abondance, comme le faisaient les chasseurs-cueilleurs à l'âge de pierre. Finalement.
Oui, c'est le paradoxe de Marshall Salins dans l'âge de pierre, âge d'abondance, de montrer que en fait l'âge d'abondance, on l'a déjà connu, et on l'a connu au paléolithique avec les chasseurs-cueilleurs. Pour quelle raison? Eh bien parce que par rapport à la rareté et des besoins, il y a deux systèmes. Soit on accroît les besoins, on accroît la production, soit on règle les besoins par des normes sociales. Or les chasseurs-cueilleurs, comme ils se déplacent beaucoup, ils ne peuvent pas accumuler des objets. Donc les objets sont pour eux des pénalités, c'est des choses lourdes. Et donc ils n'ont pas besoin de tout le temps produire. Et c'est assez étonnant. Marshall Salins montre comment dans cette société, qui est évidemment une société très pauvre, mais comment dans cette société, il n'y a aucune nécessité de travailler très, très fortement. Les chasseurs-cueilleurs travaillent quelques heures et s'arrêtent pour socialiser. Et c'est ça l'idée de Keynes, c'est que en fait la véritable finalité de l'humanité, c'est dans cette socialisation humaine, et que le capitalisme en fait nous détourne en faisant de l'amour de l'argent le premier de tous nos motivations.
Donc c'est le capitalisme qui empêche la disparition ou au moins la diminution du travail.
Oui, d'une certaine manière, c'est ça. C'est dans ce mécanisme. Et d'ailleurs, on peut penser qu'avec la crise écologique qu'on connaît, la crise climatique, les besoins vont. C'est une opportunité extraordinaire pour le capitalisme, parce que les besoins vont croître de manière incroyable. S'il faut maintenant dépolluer l'air, dépolluer l'eau, lutter contre la chaleur, l'artificialisation du monde, qui est un des éléments centraux de la marchandisation, peut croître de manière insensée. Donc, il y a là quelque chose qu'il faut briser dans ce cercle.
Et pourtant, Keynes prédit, vous l'avez dit, la disparition du travail et évoque déjà dans son essai un mal nouveau, le chômage technologique. Il y a beaucoup d'économistes qui estiment qu'on se dirige vraiment vers cette société sans travail.
Oui, on verra. Donc, c'était son point de vue. Et pour l'instant, si vous regardez il y a bien sûr eu une décroissance au long du 19e siècle, par exemple, du temps de travail, mais le temps de travail diminue beaucoup moins. Et même aux États-Unis, en Angleterre, le temps de travail a pu croître depuis, c'est discuté, mais depuis une trentaine d'années. Donc, on voit qu'il n'y a pas un lien entre le revenu et la richesse de la société et la nécessité du travail. Donc, cette idée que ce serait quelque sorte un choix voulu de arbitrer entre le temps libre et le temps de travail n'est pas une bonne hypothèse.
Keynes s'inscrit contre l'idée selon laquelle, je cite, le juste est l'injuste et l'injuste est juste parce que l'injuste est utile et que le juste ne l'est pas. C'est cela qui fait toute l'originalité de ce texte, selon vous?
Oui, parce que ça revient au premier motif que j'indiquais, c'est le fait que les valeurs, son idée, c'est que les valeurs qui ont permis à l'humanité, au travers du capitalisme, de sortir de la crise de subsistance, sont des fausses valeurs, en particulier l'amour de l'argent, l'usure, la cupidité. Son modèle, c'est qu'en quelque sorte, l'humanité en a eu besoin dans une certaine phase, parce que c'était nécessaire à cause de son rapport à la nature. Mais il pense qu'en fait, ça, ce ne sont pas des bonnes valeurs et qu'il va falloir en sortir à un moment donné vers autre chose. Et c'est pour ça que je le rapproche de Marx, parce qu'il y a une idée assez semblable chez Marx, c'est-à-dire que le capitalisme est en quelque sorte un mal nécessaire, celui qui permet le développement extraordinaire des forces productives, mais une fois ce travail fait, il doit céder la place à une forme sociale qui soit plus harmonieuse.
Et c'est en cela, avec cette idée, que ce texte illustre, selon vous, la théorie de Keynes selon laquelle l'économie est une science morale?
Oui, exactement, puisque le fondement de son analyse est de type moral. La question des valeurs est très essentielle pour Keynes, et c'est bien du point de vue des valeurs qu'il juge le capitalisme.
Je vais vous poser une dernière question extrêmement difficile. La lettre de Keynes commence par ces questions. Quel sera le niveau de vie dans 100 ans et qu'est-ce qui sera économiquement possible pour nos petits-enfants? Alors 90 ans après cette lettre, quelle tentative de réponse on pourrait essayer d'apporter aujourd'hui en quelques mots?
Pour les 100 prochaines années, vous voulez dire?
Aucune idée. Question difficile. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je précise pour les auditeurs que vous avez également publié, André Orléans, L'Empire de la Valeur, refonder l'économie. C'était il y a quelques années au Seuil. Et donc j'invite les auditeurs à lire cette lettre à nos petits-enfants de Keynes. Un grand merci.